RCF.
Nous célébrons les 800 ans de la naissance de saint Thomas d'Aquin et les 700 ans de sa canonisation. Lire ou simplement découvrir Thomas d'Aquin aujourd'hui, c'est retrouver et raviver ce que la tradition patristique et médiévale a déployé de plus fécond pour l'intelligence de la manifestation du mystère, de notre relation au salut. Le sacrement est ce que nous pouvons comprendre comme le signe visible du don de Dieu. Comment comprendre la nature, la signification et la finalité du sacrement? En quel sens parler de sacramentalité de la création, du salut, de l'Église? Comment pouvons-nous approcher ce mystère qui nous révèle la spécificité de la relation originale entre Dieu et l'homme? Notre entretien a pour objet aujourd'hui rien de moins que la pensée du sacrement chez saint Thomas d'Aquin. J'ai la joie d'accueillir frère Daniel Bourgeois de la Fraternité des moines apostoliques de Saint-Jean-de-Malte et curé de Saint-Jean-de-Malte. Bonjour frère Daniel.
Bonjour Sarah.
Bienvenue dans Dialogue. Vous avez publié plusieurs ouvrages, pour en citer quelques-uns, L'un et l'autre sacerdoce, paru aux éditions d'Esclé de Brouwer, ou encore un livre sur Jésus de Nazareth aux éditions Payot, Rivage, une biographie de Jésus à partir de ses repas. Ainsi qu'un livre très savant, croisant philosophie et théologie, Être et signifier, une réflexion sur la sacramentalité chrétienne qui s'appuie sur des sources antiques et médiévales, en particulier la lecture de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, qui nourrit votre réflexion, votre questionnement sur le sacrement. Alors, peut-être d'abord, frère Daniel, quelques mots pour présenter sa pensée à tous ceux qui ne sont pas familiers de cette œuvre, et je pense nous sommes assez nombreux. Cette œuvre est considérable. Quelques jalons, la somme contre les gentils, 1259-1265, puis l'œuvre, la grande œuvre de la maturité, la somme théologique, autour de 1266-1272.
Inachevé,
une œuvre immense, 512 questions, 2669 articles, avec cette question un peu centrale de la nature de Dieu. Il paraît que saint Thomas avait dès sa jeunesse cette question, quid est Deus, qui est Dieu, hein. Et cette question du Dieu un, du Dieu créateur, du Dieu providentiel, de la finalité et du mystère du Christ-homme, donc question de Dieu. Pour un chrétien, de cette approche de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, frère Daniel?
Vous voulez dire aujourd'hui ou pour saint Thomas?
Pour vous, d'abord.
Ben pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je pense que si on dit qu'on a la foi, en réalité, on énonce une relation particulière, personnelle avec Dieu. Par conséquent, quand on dit qu'on a cette relation, c'est quand même important de savoir avec qui on a cette relation. Et donc, le problème de Dieu, il est d'abord, pour les chrétiens, surtout aujourd'hui, c'est surtout ça. Mais en même temps, j'allais dire, Dieu, c'est le point commun. Parce que, précisément, là nous entrons tout de suite dans la perspective de saint Thomas, c'est que pour lui, Dieu peut être approché, je ne dis pas connu, parce que ce n'est pas exactement la même chose, de deux manières. La première manière, c'est ce qu'il appelle la théologie ou disons la philosophie, plus exactement, ce qu'on appelle encore aujourd'hui la philosophie, c'est-à-dire une approche du mystère de Dieu par les seules ressources de l'intelligence humaine et à partir des données qu'elle peut utiliser couramment, c'est-à-dire les connaissances qu'elle a en sciences, les sciences du monde, les sciences de l'homme, etc., tout ça. Et donc, Dieu, c'est pour ça que ça reste le problème. Et alors, je voudrais tout de suite faire une remarque par rapport à la pensée moderne. La pensée moderne a comme centre l'homme. Mais ça veut dire qu'on n'envisage pas vraiment pour elle-même la question de Dieu comme celui qui se révèle et qui se fait partenaire de l'homme par la foi. Or, toute l'œuvre de saint Thomas d'Aquin est absolument géniale pour ça. C'est parce qu'elle parle de Dieu, mais en sachant très bien et en maintenant tout le temps avec une rigueur absolument étonnante, la distinction fondamentale. Vous savez, chez saint Thomas d'Aquin, la distinction, c'est un outil intellectuel de premier ordre. Eh bien, la distinction, c'est Dieu connu dans la vie courante à travers un certain nombre de points de repère, comme par exemple, je prends un exemple exprès très banal, les gens qui disent devant un coucher de soleil, oh, ça me donne le sens de la présence de Dieu. Là, ce n'est pas dit que ce soit la foi. C'est simplement que on est bien fatigué, on est crevé, on tombe en extase devant un coucher de soleil sur le Mont Blanc et on se dit, oh, mais c'est pas possible, c'est Dieu qui a fait ça. Là, dans ce cas-là, c'est une approche de Dieu qui d'ailleurs n'est pas scientifique, c'est une approche de Dieu qui a beaucoup de succès aujourd'hui parce qu'elle est immédiate, mais ça, c'est un des deux moyens. Et l'autre, c'est le fait de pouvoir non pas approcher Dieu, mais se laisser approcher par lui pour qu'il fasse la relation qu'il veut et qu'il la développe avec moi. Donc, dans un cas, la source de connaissance, c'est ce que je suis, mon intelligence, le monde autour de moi. Et dans l'autre cas, la source de connaissance, ben, j'en suis pas le maître. La foi est une grâce, c'est un don. J'y suis pour rien.
On évoquait au départ cette œuvre immense de saint Thomas d'Aquin. Vous êtes, vous, un lecteur averti. On peut peut-être difficilement avoir tout lu saint Thomas d'Aquin.
Non, moi non plus, rassurez-vous.
Mais peut-être pour nos auditeurs qui n'en sont pas familiers, quel texte pourriez-vous conseiller pour entrer dans cette œuvre ?
En gros, je pense quand même, ça peut paraître un peu bizarre, mais d'abord, elle est plus accessible. Il y a une somme. Donc, saint Thomas, c'est toujours la pensée la plus synthétique et la plus large possible. Donc, on ne peut pas lui demander de résumer en 3 pages. Ça, c'est exclu. Avec lui, ça ne marche
c'est
jamais.
C'est la marque d'une grande pensée.
Mais, aussi, hein, oui, c'est oui. Ça. Mais pour lui, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Somme contre les gentiles ». Qu'on traduit les gentils. Ça n'a rien
les
à voir avec le sang.
Les gentils,
c'est-à-dire c'est des les païens.
Les
nations. Les gens qui n'ont pas reçu le baptême et la grâce de la foi. Donc, il a écrit tout un livre dont les 3/4 sont concernés, sont orientés sur l'approche de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est très intéressant ce texte parce que on voit que saint Thomas, on y va, un dominicain religieux, il est tombé dans la marmite quand il était petit comme Obélix, mais pas du tout. En réalité, il comprend très très bien ce que peut être la pensée, disons, la pensée philosophique pour elle-même, n'est-ce pas ? Et donc, moi je trouve que, et c'est édité, je crois, chez Garnier Flammarion, c'est trois petits volumes de poche, faut s'accrocher, hein. Mais ça a l'avantage d'être finalement assez accessible parce que précisément, on a l'impression que sans arrêt, il titille celui qui a cette connaissance, ou ce désir de connaissance, et que petit à petit, il l'amène à découvrir un certain nombre de choses, pas uniquement d'ailleurs qui relèvent de la philosophie, mais de temps en temps, il y a une petite ouverture sur la foi, et il y a notamment des passages très très beaux dans lesquels il exprime, et ça je veux dire, c'est magnifique, il exprime l'angoisse des philosophes anciens, philosophes, qui ont parlé de Dieu, donc qui connaissaient le problème, et qui restent sur la faim. Ça, je dois dire, aujourd'hui, pour trouver un texte équivalent dans la littérature contemporaine, je crois qu'on peut se lever tôt le matin. C'est-à-dire, saint Thomas, à ce moment-là, voit ce qu'est l'important dans cette manière de penser, de chercher Dieu par l'intelligence, et tout d'un coup, on arrive. On peut éventuellement montrer que Dieu existe, mais de Dieu, on ne peut rien dire avec les seuls attributs de la connaissance sur le terrain.
cette approche complètement comment dire singulière, oui, et en même temps centrale, hein, mm-hmm, comme vous venez de l'exprimer, vous a conduit, vous, Daniel Bourgeois, à faire un travail de recherche, mm-hmm, à rédiger une thèse sur la question de la signification, oui, hein, être et signifier, à partir de Saint-Augustin et de Saint-Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Daniel Bourgeois, à cette question du sacrement ?
Parce que, au fond, quand on y pense, si Dieu se fait connaître à l'homme de la nature, tel qu'il est, à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait un langage qui parle de Dieu. Et moi, personnellement, je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est que la création est le langage de Dieu. Contempler pour l'homme la création, ça peut... Je dis pas que c'est pas obligatoire, mais ça peut être le signe qui renvoie. Parce que moi, je dois dire, j'ai été beaucoup frappé par un linguiste moderne qui maintenant n'est plus tellement à la côte, mais qui est très bien, Emmanuel Benveniste. Et Benveniste, j'allais dire, il montre que le mouvement même de la signification, c'est de porter le mot renvoie à la réalité. Donc, il n'est que relation, il n'est que. Et je me suis dit, mais au fond, dans le cas de la création, c'est vrai, la réalité humaine est là complètement à disposition. Mais
c'est beaucoup plus complexe qu'une simple reproduction, ah, une, oui, simple représentation. Eh oui. Là, il y a un rapport assez...
Mais déjà un certain rapport, oui, presque vivant. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que, moi je ne sais pas... Quand on pense par exemple à Claudel avec son pilier de Notre-Dame, n'est-ce pas ? Je ne sais pas s'il a été brûlé, ce pilier de Notre-Dame, mais c'était ça. Je veux dire, tout d'un coup, vous me direz que c'était dans une célébration religieuse, mais je ne pense pas que tout d'un coup il a eu vraiment la foi. Et il a découvert qu'il y avait des moments dans l'existence humaine, des moments presque d'extase, qui le conduisaient à un droit. Et il a mis combien de temps pour s'en remettre, hein ? Parce que c'est perturbateur.
Alors, dans la Somme théologique, il y a un traité sur les sacrements ou une partie...
Alors, c'est la dernière.
C'est
partie.
La dernière. C'est la dernière. Achevée.
Voilà, c'est ça.
Et alors, peut-être simplement d'abord, comment définissez-vous le sacrement ? Qu'est-ce qu'un sacrement ?
Je voudrais repartir de ce que nous venions d'évoquer tous les deux. Qu'il y ait des signes qui évoquent le Dieu transcendant sur lequel on n'a pas de prise, ça c'est normal. Mais je me suis dit, après tout, si quand l'homme devient croyant, est-ce qu'il perd toute cette richesse, tout ce langage, tous ces signes ? Donc, en réalité, les sacrements, c'est le relais pour une connaissance plus personnelle, plus profonde du mystère de Dieu. Et c'est pour ça que les signes, que ce soit le baptême, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit tout ce qui constitue l'existence habituelle du chrétien, la prière, c'est des signes de la relation avec Dieu, mais non plus simplement des signes où c'est l'homme tout seul qui signifie à Dieu son intérêt, sa recherche, ses angoisses, ses difficultés, mais là, au contraire, qui signifie, Dieu signifie à lui la réponse, n'est-ce pas ? C'est pour ça que, par exemple, Skilbeck, le théologien hollandais qui a beaucoup fait parler de lui à une époque, il avait dit « le Christ, sacrement de la rencontre de Dieu ». C'est ça. Un signe peut être simplement un signe que j'envoie, mais je ne sais pas ce qui va sortir de là. Ou bien un signe peut être véritablement un signe qu'on m'envoie en me disant « tu ne peux pas me saisir, tu ne peux pas m'attraper, mais je te dis que je suis là et moi je t'attrape ». C'est ça la différence.
Dialogue, Sarah Brunel.
Thank you.
frère Daniel, je reviens à cette question. Qu'est-ce qu'un sacrement? D'abord, simplement, on peut définir.
De même que pour communiquer entre les hommes, ont un système de signes qui n'est pas uniquement le langage. Personnellement, moi, je pense que c'est ça que Baméniste, d'ailleurs à la suite de Saussure, avait déjà bien noté, c'est que il y a des langages. Nous vivons au milieu d'une foultitude de langages. Notre corps qui fait ça pour dire arrêter, tout est langage de ce point de vue. Et d'ailleurs, c'est ce que disait saint Paul. Rien n'est sans langage. Je veux dire. Eh bien, comme on vit avec ça, je me suis dit, c'est pas possible que on dise quand c'est la connaissance par les moyens naturels de Dieu, à ce moment-là, j'ai tout le langage par lequel je m'exprime à lui, mais il faut bien qu'il y ait un langage par lequel Dieu s'exprime à moi. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que saint Augustin d'abord, puis saint Thomas qui a repris ça par la suite, le langage, le sacrement, c'est signum. Signum d'un acte ou d'une présence de Dieu, voilà, c'est tout.
Alors, dans votre réflexion et dans l'histoire de la théologie, vous notez un déplacement de l'interprétation, on va dire, sur le sacrement ou de la compréhension du sacrement. Saint Augustin joue un rôle majeur.
Oui.
Mais si j'ai bien compris, est-ce que vous pourriez nous expliquer cela? Le sacrement a d'abord été compris plutôt comme un remède,
oui,
avant d'être compris comme un signe.
Pas au début, précisément. Saint Augustin ne le considérait pas comme remède. C'est après qu'on a dit « Oh, c'est trop compliqué pour les gens ». Donc, pour que ça marche, la pastorale, on va leur dire qu'ils ont besoin de temps en temps d'un petit vaccin, d'une piqûre de rappel, d'un machin anti-Covid,
mais alors,
etc.
Qu'est-ce que c'est que ce remède? En quel sens
on disait les sacrements comme remède, c'est-à-dire, si vous aviez fait une bêtise, vous alliez vous confesser, si vous n'étiez pas content, vous alliez faire une dévotion, etc. Tout ça était vu uniquement, j'allais dire, c'était les sacrements thérapeutiques. Ça existe dans les sacrements. D'ailleurs, tous les sacrements ont aussi une dimension thérapeutique. Mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'il y a dialogue entre Dieu qui, lui, se manifeste. Alors, évidemment, c'est là où c'est quand même assez extraordinaire. Et j'allais dire, je sais pas si quelqu'un résoudra un jour ce problème. C'est comment se fait-il qu'à partir du moment où Dieu s'adresse à nous, ils prennent exactement presque tous les éléments du dialogue humain. Alors vous me direz, mais c'est normal parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Mais ça n'empêche qu'on ne peut pas dire que ces signes sacramentels nous éclairent plus sur la pensée de Dieu. Sauf un seul sacrement qui est sans doute celui qui est le plus révélateur, c'est l'Écriture sainte. Mais là encore, ce qui est intéressant et tout à fait remarquable, c'est que l'Écriture sainte elle-même est sacrement, c'est-à-dire elle fait voir quelque chose de l'action divine. Alors, c'est pour ça que moi je pense que le vrai sacrement, sur la base, c'est le Christ. C'est-à-dire que quand Dieu se fait homme, ça devrait être la fête du sacrement. Parce que c'est ça l'astuce de Dieu, c'est de se dire, bon, ils ont quand même du mal à comprendre, ils sont un peu bouchés, mais je vais quand même leur faire toucher du doigt, enfin, le geste de Thomas. Je vais leur faire toucher du doigt ce que c'est que la relation avec moi. Alors évidemment, nous ne sommes pas tous Thomas, nous ne sommes pas tous dans le Cénacle, mais c'est quand même la même intention. C'est-à-dire que Dieu puisse, et c'est pour ça que le sacrement de l'Eucharistie, c'est extraordinaire, parce qu'on touche. On touche la réalité même du corps du Christ. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on communie, on ne communie pas à l'âme du Christ. On communie par son corps, avec son corps, on communie avec lui. Donc c'est comme la maman qui caresse son enfant.
Par l'incarnation, donc sacrement du Christ. Ouais. Alors, est-ce que je peux vous poser cette question? Ne peut-on alors pas parler exclusivement de sacrement? Ne peut-on en parler exclusivement que dans le christianisme, alors?
Ah oui.
Oui.
Oui. Mais d'ailleurs, autrement, saint Thomas dit qu'il y a peut-être des gens qui ont des intuitions de cela, mais comme ils ne peuvent pas avoir par un sacrement la relation qui leur permet de comprendre et de mesurer, de toute façon, il faut quand même bien avouer que nous, quand on reçoit le sacrement de l'Eucharistie ou la confirmation ou l'onction des malades, les éclaircissements sur notre relation avec Dieu, des fois, sont un peu limités. Hein, je dirais, faut pas aller trop loin là. Je veux dire, mais c'est ça qui est extraordinaire. Comme pour moi, c'est ça le grand problème. Et je suis toujours en train de réfléchir à tout ça parce que je me dis, ce qu'il faut quand même arriver à faire, c'est essayer de comprendre pourquoi Dieu a-t-il voulu et a-t-il vraiment réussi d'une certaine façon à communiquer ce qu'il est, dire ce qu'il est, à travers des gestes aussi simples. Ça, pour moi, ça reste quand même... Alors, j'ai essayé de dire que c'est parce que la structure de signification est la même, mais on voudrait savoir pourquoi Dieu... Parce qu'après tout, Dieu, il peut arranger les choses comme il veut. Il aurait très bien pu faire une sorte de sacrement dans lequel tout d'un coup on avait l'éblouissement. Vous savez, c'était d'ailleurs le truc d'Eleusis, n'est-ce pas?
Oui, comme dans la tradition grecque,
l'épopsie, n'est-ce pas? Ouais, tout d'un coup, on éblouissait un peu les gens avec des torches, etc. Et on leur disait, ça y est, Cérès est là, Déméter est là. Bon, il n'a pas voulu dire ça. Le maximum qu'il ait voulu, c'est la lumière des cierges. J'allais dire, là, c'est relativement modéré. Voilà. Mais c'est l'intention que Dieu a pu rendre signifiant des réalités très simples qui étaient déjà signifiantes dans certaines choses. Ça a pu être la signification et l'explication de son mystère.
Alors, si nous résumons, donc saint Augustin a formulé cette idée du sacrement comme signe.
Oui, c'est lui.
Ça a été oblitéré ou effacé par la tradition
entre le 5e et le... saint Thomas.
Et saint Thomas, voilà. Plutôt vers l'idée de thérapeutique du sacrement.
Bah oui, c'est ça.
Et ou d'efficacité, de cause efficace du sacrement. Et puis, saint Thomas, lui, a recentré sur cette question de la signification, exprimant ce sens du mystère, on va dire, de l'alliance que Dieu a scellée avec les hommes par le Christ, menée à sa perfection, donc dans l'incarnation, et la Pâque pour le chrétien.
Voilà.
Alors, comment comprendre cette sacramentalité de l'alliance pour saint Thomas d'Aquin? Est-ce qu'il s'agit d'une sacramentalité d'abord de la création? Parce que ça, c'est quelque chose peut-être qu'on hérite de l'ancienne alliance, de la première. Et qu'est-ce qui se joue, on va dire, dans ce passage-là?
En fait, pour la création, bon, là, ça va. On peut utiliser un certain nombre de symboles. Toute la tradition liturgique ne s'est pas gênée pour démultiplier tous les symboles, les processions, la lumière, etc. Mais après, j'allais dire, ce qui est devenu le sacrement de la présence de Dieu dans le monde, c'est l'Église. C'est-à-dire que moi, c'est personnellement, quand je suis prêtre, des fois je choque quand je dis ça, mais pour moi, quand je suis prêtre, je suis évidemment heureux d'être au service de l'Assemblée, mais pour moi, ce qui est le plus éblouissant, c'est de voir l'Assemblée. Et d'ailleurs, saint Augustin le disait, vous êtes le corps de Christ. Entre le geste de consécration que l'on a beaucoup valorisé pour le pouvoir unique du prêtre, d'accord, mais en réalité, le vrai problème, c'est que tout à coup, on se retrouve ensemble, prêtre, laïc, évêque, tout ce que vous voudrez, on se retrouve ensemble comme sacrement du Christ. C'est pour ça que l'Eucharistie est un sacrement, c'est ce qu'on a dit au Concile Vatican II, le source et sommet de la vie de l'Église, c'est ça qui est en cause, c'est-à-dire que l'Église devienne sacrement de la présence de Dieu, et le Christ, et vous êtes le corps de Christ, voilà.
Alors ce sacrement qui est cause de signification, je reviens à saint Thomas, quels sont alors les signes qui peuvent exprimer ou contenir ce sacrement? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
Je crois qu'il faut toujours repartir, ça, je ne sais pas si tous les théologiens sont d'accord, mais moi je pense qu'il faut toujours repartir du fait que la création, le monde, malgré le mal, malgré tous les ennuis, malgré toutes les crises personnelles, là, le monde est signe de la présence créatrice de Dieu. Simplement, il l'est à sa manière et à sa mesure, souvent un peu faible. Hein. Nous ne sommes pas des sacrements rayonnants du Christ tous les matins quand on se lève. Hein. Je dirais, il faut au moins prendre un café et un petit déjeuner pour retrouver le moral sacramentel, si je puis dire. Mais, si vous voulez, là où est véritablement le signe sacramentel, c'est le peuple qui célèbre tout ça, qui, lui, habité par la foi, convoqué par le Christ, avec le prêtre qui est le signe du Christ qui convoque. Il n'est pas le Christ, il est le signe du Christ. Le prêtre lui-même est sacrement dans ces cas-là. Eh bien là, c'est le rythme normal de la vie de l'Église qui, au fil des Eucharisties, manifeste cette présence du Christ dont elle est bénéficiaire.
Alors quand nous parlons de ce signe, peut-être aussi une difficulté se pose et sans doute Saint Thomas l'a-t-il affronté. Ce signe désigne une réalité, mais est-ce une réalité du même ordre ou est-ce une réalité, on va dire, inférieure en consistance à ce qu'il désigne? Parce que comme vous l'évoquez tout à l'heure, là nous sommes en rapport avec quelque chose qui nous dépasse, qui est tout autre.
Je crois, c'est ce qui a séduit l'Antiquité. Quand Saint Grégoire, Saint Léon, homme connaît ta dignité. Il dit ça le jour de Noël. Il dit le Christ s'est fait homme, homme connaît ta dignité. C'est-à-dire, le Christ a fait qu'un homme, dans le moindre de ses gestes, ait pu être le signe, la manifestation de la présence de Dieu, parce qu'il était Dieu. Eh bien, nous, j'allais dire, nous sommes à la même enseigne. Homme connaît ta dignité. C'est-à-dire, ce que nous sommes. On est tous un peu tordus, on a tous des problèmes à régler avec papa et avec Freud et avec tout ça. Mais dans tout ça, on peut tourner les choses comme on veut. Nous sommes là pour manifester la dignité que Dieu nous a faite d'être les signes vivants de sa présence. Qu'est-ce qu'on peut de mieux?
Donc ça peut-être nous interroge plus largement aujourd'hui, si on voyait l'actualité de cette réflexion sur le signe, aussi sur ce qu'est le langage peut-être, parce que nous en faisons quelque chose de très fonctionnel. Et là, vous nous invitez à penser, on va dire, une dimension, alors je dis un mot un peu barbare, ontologique, mais
en tout cas,
un rapport à la réalité, quelque chose qui dit l'être, qui engage notre qui rapport à l'être.
Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est en parfaite coïncidence, enfin déjà en parfaite harmonie avec ce que disent ce qu'a dit Saint Thomas pour la il l'a dit non pas pour la signification, mais il a dit quand on reçoit la grâce, ça ne détruit pas la nature, ça l'amène à son achèvement. Quand on reçoit la grâce de signifier, ça ne détruit pas les autres signes, ça les mène à leur achèvement. Je veux dire, là, on peut tourner le problème dans tous les sens. Que Saint Thomas ait vu ça, c'est quand même absolument génial et on lui doit tout.
Merci infiniment, frère Daniel.
Et merci à vous.
Nous poursuivons notre entretien dans une deuxième émission, Saint Thomas, penseur de la sacramentalité chrétienne. Merci à nos amis de RCF Marseille qui nous ont accueillis dans leur studio et tout particulièrement à Frédéric Banégas.